Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio de partage qui va parler de beaucoup de thématiques différentes, mais c'est surtout pour vous parler de d'autres indices qui vont dans l'hypothèse du Graal que je vous ai donné. Et ensuite, petit à petit, on va tisser les choses pour arriver jusqu'à notre première méthodologie pour trouver le Graal en soi. Et pour commencer, je vais vous parler du serpent de la connaissance et en particulier de la tête du dragon. Parce que ce symbole est un autre indice que j'ai reçu pendant l'élaboration de la série d'ateliers d'art-thérapie autour de la guérison des 5 blessures de l'âme. Et en fait, c'est une petite histoire de synchronicité qui m'est arrivée. Et tout a commencé à l'occasion de la création de la peinture de la sirène de Mintakan. Je vais vous mettre une image sur la page pour que vous puissiez un petit peu la voir. Et je pratique donc le processus de peinture intuitive, c'est-à-dire que je vais faire des accumulations de couches d'un ordre bien précis jusqu'à en fait avoir un panel de possibilités. Et ensuite, je vais faire un espèce de voyage chamanique avec la toile pour voir ce qu'il y a. Et est apparue une sirène, ce qui m'a fortement perturbée, ce qui m'a dérangée, parce que je peins beaucoup de femmes, mais ça ne me correspond pas tellement dans ma personnalité et dans mon être. Et c'est assez étonnant parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez masculine, d'assez fonceur. Et quelque chose d'aussi féminin qu'une sirène, qui est encore plus féminin que tout ce que j'ai fait, ou en tout cas les femmes qui sont un petit peu guerrières passent plus facilement avec moi. J'ai eu du mal à l'accepter, je l'ai tournée dans plein de sens différents pour essayer de voir autre chose. Et puis finalement, j'ai baissé les armes comme toujours, hein. C'est toujours moi qui cale, et j'ai dessiné ce que je recevais l'appel de dessiner. Et après avoir accepté et avoir commencé à voir l'image de la sirène et puis la représenter en espèce de brouillon, j'ai dormi là-dessus et j'ai fait un rêve particulièrement puissant d'un serpent bleu avec une tête noire. Et ce qui était de particulier avec ce serpent, c'est que la tête était séparée du corps, et les deux étaient en vie chacun de leur côté, mais faisaient grandement n'importe quoi, c'est-à-dire ça partait dans tous les sens, la tête était cruelle, elle essayait de tout mordre, le corps partait n'importe où, et en fait on avait mis les deux dans deux sacs différents. Ce qui est très intéressant, c'est que lors de ce stage que j'anime, je ponctue les différentes phases à chaque fois par un tirage à chacune des phases. Et le lendemain, j'ai pu terminer donc toutes les phases et il était question de décapitation. Ça ne s'invente pas, c'est absolument incroyable. Donc, ce qui m'indiquait que je devais prêter d'autant plus d'attention encore au symbole reçu dans ce rêve qui était déjà très fort et qui m'avait allumé toutes les alarmes. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas quel était ce symbole. On lit beaucoup de choses sur le serpent, sur l'alchimie du serpent, sur le fait qu'il mue, qu'il passe à autre chose, il y a aussi la médecine du serpent, mais ça n'allait pas du tout avec cette histoire de tête coupée, de décapitation et de couleur bleue. Donc, je laissais de côté tout cela pendant un petit moment. Mais ce symbole-là ne voulait pas être oublié, et petite coïncidence rigolote, c'est que quelques semaines plus tard, mon chat découpa la tête d'un serpent en bois que j'avais et qui me servait en fait de décoration que j'utilise pour les hôtels ou tout simplement pour jouer. Et j'étais vraiment ébahie par le fait que ça revienne, quoi, cette histoire de tête découpée. Mais là aussi, je continuais mes recherches et tout ce que je ne trouvais, rien ne faisait sens. Et j'étais de nouveau obligée de tout laisser ça de côté, donc à nouveau le symbole. Alors forcément, quand on laisse toujours de côté, etc., on voit que ça monte à chaque fois d'un cran, c'est-à-dire que c'était le rêve, après ça devient quelque chose de réel. Et cette fois-ci, quelques jours plus tard, j'ai retrouvé un orvet décapité à mes pieds. Donc je me trouvais, tout d'un coup je baisse les yeux et à gauche la tête, à droite le corps. Voilà, petite vision abominable. Mais en tout cas, les signes se faisaient de plus en plus fort. Il me disait de ne pas perdre de vue le symbole, même si je ne comprenais pas, mais de continuer à regarder. Et il était vraiment temps que je comprenne et que je mette toutes mes capacités en jeu pour trouver le fin mot de l'histoire, parce que je ne savais pas jusqu'où ça pourrait continuer. J'espère que ça se serait arrêté là. En tout cas, c'était déjà assez fort à ce moment-là. Alors, heureusement, depuis, j'ai trouvé la clé. Et je vais vous expliquer en passant par différents concepts. Alors tout d'abord, le serpent, c'est aussi le symbole de l'énergie de vie. C'est le symbole de la déesse Shakti. Et c'est aussi en fait une représentation du principe du mouvement qui recherche la connaissance. Donc les deux concepts de vie et de savoir sont extrêmement liés entre eux. C'est-à-dire que lorsque on veut savoir quelque chose, qu'on veut connaître quelque chose, c'est en fait qu'on veut faire l'expérience du savoir et qu'on veut exister. Je veux connaître, je veux percevoir, et pour cela, c'est je dois en faire l'expérience d'existence. Donc la connaissance, on peut la relier à la perception. Et c'est justement cette histoire-là qui nous aurait expulsés du jardin d'Éden et qui nous aurait fait entrer, descendre dans la vie Shakti. Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de façon d'un point de vue très très élargi, on pourrait se dire que Dieu a voulu se connaître lui-même et que c'est pourquoi il créa l'univers. Donc c'est comme si c'était lui-même chassé du paradis finalement, du monde parfait, pour faire la connaissance de ce qu'il était, pour connaître. Donc on ne peut pas s'empêcher de vouloir connaître. On ne peut pas s'empêcher de faire des expériences. C'est même plus qu'humain en réalité. C'est pratiquement divin. C'est ce qui nous anime. La connaissance, on pourrait la remplacer par les termes de perception, comme j'ai dit, mais aussi de ressenti. Parce que ce sont nos sens qui vont nous permettre de savoir, d'accéder à du savoir. Soit qu'on nous enseigne quelque chose et qu'on l'écoute, ou alors que l'on lit un livre, ça passe par la perception. Et il y a bien aussi la perception directe de l'expérience avec le toucher, l'odorat, voir quelque chose qui se déroule devant nos yeux. C'est pas uniquement des écrits ou de la transmission par un père. Quoi qu'il en soit, exister, se connaître, ce sont nos sens qui vont capter un phénomène, quelque chose qui se produit. Et ce captage, c'est donc le passage d'une chose matérielle, hein, le phénomène, jusqu'à l'autre qui va capter, qui est un de nos sens. Et ce passage-là, de l'un du point A, le phénomène, au point B, le sens, c'est symboliquement le serpent. Il y a un mouvement de l'un vers l'autre, une transmission pour qu'il y ait rencontre entre A et B. Sans ce mouvement, eh bien, le serpent meurt, il ne relie plus rien. Et on pourrait dire finalement que la connaissance de la vie a un prix qui est celui du mouvement, celui de l'ondulation permanente. Très bien. Mais alors, que signifie que le serpent de la vie ou serpent de la connaissance puisse perdre sa tête? Caput draconis, ça signifie en fait la tête du dragon, la tête du serpent. C'est un symbole positif en géomancie, mais c'est aussi un symbole qui est utilisé pour représenter l'esprit avec un E majuscule. Ce n'est pas le mental, c'est l'esprit qui est même au-delà de l'âme, qui est absolument parfait, puisque l'âme peut être blessée. L'âme est en fait un champ mémoriel de toutes nos expériences, elle garde en mémoire même au-delà de nos vies, et c'est pour ça que c'est l'âme qui va régler en fait le karma, qui va savoir où il faut aller pour régler les choses. Et l'esprit, c'est un petit peu la perfection de ce que l'on est, c'est vraiment notre, ce qu'il y a de plus divin en nous finalement. Et sans esprit, bah, notre corps ne peut rien percevoir, il ne peut rien ressentir, il est voué à la mort. Sans tête, le serpent meurt, il n'y a pas de connaissance, pas de vie. Et c'est ce que les maîtres généticiens, dans le cas de l'hypothèse du Graal dont je vous ai parlé, remarquèrent. C'est qu'en coupant totalement le lien avec l'esprit, le corps n'était pas capable de survivre, puisqu'il n'y avait aucun sens à percevoir s'il n'y a rien qui capte au bout du fil, s'il n'y a pas de conscience qui est liée à l'esprit. Mais si le lien est total, c'est-à-dire que la tête est seulement endormie ou hypnotisée, enfin, si le lien est total, on va dire, l'humain ne peut pas rester sous aucune influence négative parce que l'esprit va donner ses directions, va prévenir la conscience, elle va repérer tout de suite ses influences et orienter alors l'hôte, la conscience, vers une autre destination d'expérience plus libre. Et c'est un échec de l'esclavage. Du coup, il faut faire un entre-deux. Et donc les maîtres généticiens, il semblerait qu'ils aient décidé d'affecter autrement le lien, non pas du côté de l'esprit, parce que ça ne marchait pas, mais plutôt du côté du Graal, c'est-à-dire de la porte qui va relier l'esprit avec le corps. Parce que du coup, l'esprit est totalement divin qu'il ne peut pas habiter le corps. Il est obligé de passer par des portes, par d'autres dimensions. Et il y a cette dimension du Graal, la part de nous qui peut communiquer justement avec notre esprit. Donc on a bel et bien un serpent décapité, mais un petit peu moins que totalement. Mais là, le corps, ben, il est en vie. Et il n'a finalement pas d'autre but que celui qu'on va lui présenter sous le nez, donc par exemple avec les médias, la télé, etc., une façon de vivre traditionnelle, etc. Il n'est plus guidé par l'esprit. Et l'esprit, ou tête de serpent, porte d'autres noms ailleurs, notamment chez les Égyptiens, qui sont les premiers, en tout cas d'après les historiens, à en parler, et qui le nomment Ba. Ils appellent Ka, le corps d'énergie, un corps donc éthérique qui anime le corps physique. Et pour eux, réunir le corps et la tête du serpent reviendrait justement à réunir le Ba et le Ka. Et cela, les alchimistes l'avaient bien compris aussi en schématisant sous la forme de l'ourouboros, vous savez, le serpent qui se mord la queue, ce phénomène-là de réunion du deux en un. Donc ils nous disaient d'avoir soif de connaissance intérieure, de la connaissance, oui, mais intérieure, qu'elle soit tournée vers nous, afin de nous connaître tellement qu'on puisse voir peut-être le vide, l'absence du Graal en nous, cette absence curieuse, ou en tout cas cette pas cette absence totale, mais le fait qu'il soit en veille. Et d'ailleurs, la pierre philosophale et le Graal ne font qu'un. Si vous avez regardé les vidéos ressources que je vous ai partagées, vous le comprenez, que c'est le même concept, hein, mais sous des termes différents. Donc, pour redonner la tête au serpent, le Ba existe, c'est comme ça. On a juste finalement détruit le Ka qui servait de pont entre le corps et le Ba. Donc le Ka, pardon, doit être reconquis puis renforcé. Et pour cela, il existe des méthodes, dont une qui est directement un héritage de Marie-Madeleine. Et cette méthode s'appelle l'extase du cœur. Alors, il existe une compilation de témoignages de la vie de Marie-Madeleine une fois qu'elle est arrivée en France. Ça s'appelle La Légende Dorée. Et dans ce texte, on y voit une Marie-Madeleine qui semble fréquemment atteindre des états de grâce absolument extatiques dans la grotte, pardon, de la Sainte-Baume. Et c'est ainsi même qu'elle recevait ses fidèles. Et on peut se poser la question, est-ce que c'était simplement de recevoir les fidèles ou c'était peut-être de les enseigner? Parce que l'exercice que je vous propose, ça s'appelle l'extase du cœur et c'est aussi une extase. Et ce lien de nom, de dénomination a très vite piqué ma curiosité, donc ma soif de connaissance, mon serpent intérieur. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce que cet état de grâce, finalement, ce n'était peut-être rien d'autre qu'un exercice de méditation qu'elle pratiquait, Marie-Madeleine, pour activer son corps de lumière, son Ka, son Graal, sa pierre philosophale. En tout cas, c'est ce que je pense. D'après moi, en fait, il s'agit de la deuxième phase de la voie de la Madeleine, c'est-à-dire la montée en puissance du Ka. Pour rappel, la première phase, pour moi, c'était le soin de l'ego, le soin des blessures. et ensuite la montée en puissance du cas. Alors pourquoi il faut impérativement ces deux phases et pourquoi il les faut dans cet ordre-là? Eh bien, souvent, ce que j'explique, c'est que sans contrôle, la puissance n'est rien. C'est-à-dire que si on n'a pas soigné notre ombre, le fait que notre cas augmente en puissance, on va orienter cette capacité-là dans des décisions plus ou moins judicieuses. On va vouloir se venger, on va vouloir faire plein de choses. Et en fait, ce n'est plus l'utiliser dans le chemin du cœur, mais l'utiliser dans le chemin de l'ego, ce qui va engendrer encore davantage de karma. Bref, on n'a pas fini. La montée en puissance du ka, donc du corps de lumière, ne peut se faire que dans le pouvoir de l'amour, avec le cœur, et ça ne pardonne pas en fait. C'est-à-dire que plus on a de puissance, plus on est capable de matérialiser, de créer des choses, hein, c'est tout simplement la loi de l'attraction aussi qui va entrer en jeu. Et dans ce cas, il vaut mieux avoir une pleine conscience de ce que l'on souhaite manifester, parce que on a la responsabilité de ce que l'on manifeste. Donc, avant de passer à une telle montée en puissance, il est absolument essentiel de faire un minimum de travail de l'ombre pour que ce soit le cœur qui régisse cette créativité, cette manifestation, et non plus notre ombre et notre ego blessé, notre enfant intérieur blessé qui, pour se protéger, est prêt à nous faire engendrer encore plus de karma. Voilà, je vais vous mettre la technique de l'extase du cœur qui est issue des écrits de Tom Kenyon dans la suite de cette page. Je vous mettrai également l'audio qui y correspond, mais aussi une vidéo trouvée sur YouTube en français, c'est assez rare pour être signalé, pour vous permettre de commencer cette mise en puissance du cas, mais vraiment en partant du cœur. Il existe d'autres méthodes que nous verrons dans la suite. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté cet audio. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'y réagir en me contactant. C'est toujours très très agréable d'avoir des conversations profondes avec vous, de connaître votre point de vue. Ça ouvre beaucoup de perspectives très intéressantes. Donc je suis toujours heureuse de nos discussions. N'hésitez donc pas. Et voilà, prenez soin de vous et en attendant, je vous dis très vite pour la suite de cet atelier. À bientôt.